Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Tourne-Page. Et pour cette émission, je reçois Martine Wagner qui va nous parler du prix littéraire Domitis.
Le prix littéraire Domitis est organisé chaque année au niveau national. Donc chaque établissement Domitis possède une série de livres et les personnes qui souhaitent participer lisent les livres. Et chaque mois, donc, il y a une petite discussion sur les livres pour savoir si ça a plu, comment, plein de choses.
Quelle est l'impression des lecteurs ? Alors, rappelons que Domitis, c'est un ensemble de maisons de résidence senior.
Oui,
c'est ça. Les gens ont du temps de lire et il y a parmi eux des gens qui ont sélectionné un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de livres et qui proposent à tous les résidents de ces maisons de lire ces livres, d'en discuter et de choisir les livres qui leur ont plu le plus, qui sont leurs favoris. Et alors, dans cette affaire, la Bibliothèque municipale de Vernouillet est partenaire.
Oui, parce que donc l'animateur de Domitis, qui s'appelle Emmanuel, nous a proposé de participer avec eux. C'est-à-dire que lui, il emmène des résidents, de temps en temps, venir chercher des livres à la Bibliothèque de Vernouillet. Donc, de ce fait, il nous a proposé
aussi d'avoir
de participer et ils nous ont fourni un jeu de 5 livres. Donc. Et là, je me suis proposée pour aller accompagner leur groupe.
Donc,
dans
vous avez
choix.
Lu les livres.
Donc, j'ai lu les livres.
Et il y a un club de discussion.
Alors, après, oui, on a une petite heure là pour échanger sur ce livre.
Sur chacun
des livres, là, c'est ça.
Et beaucoup de personnes ont lu ces livres ?
Alors, bon, pas trop encore cette année, mais bon, on espère que chaque année,
il y en aura de plus en plus.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, voyons un peu les titres qui sont choisis. Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr, Le violoniste de Bormann. Ensuite, il y a eu un autre livre, Danser les ombres de Godet, Les forêts de Ravel, et puis Le voyant de Jérôme Garcin. Donc, tous ces livres ont été proposés à la lecture des résidents de ces maisons Domitis, mais aussi par le biais de la bibliothèque de Vernouillet et par les bibliothèques de l'Odyssée ou toutes les bibliothèques, et vous pouvez aussi les acheter, ces livres.
Donc, mais particulièrement...
Oui, à la bibliothèque de Vernouillet.
On peut les proposer, puisque nous, on a une série qui nous a été offerte par Domitis.
Donc les lecteurs peuvent se les procurer gratuitement, bien sûr. Donc, les modalités de participation, c'était ouvert gratuitement à tout adulte désirant se joindre à cette animation régulière. Et puis, l'engagement, c'était dans l'idéal, il faut lire les 5 titres. Donc, on va parler des 5 livres pour pouvoir juger les uns par rapport aux autres et élire le favori. Et le favori sera élu prix littéraire Domitis. Eh bien, chers auditeurs, le jour même où la première émission passe, c'est-à-dire le 11 mai. Alors, parlons un peu de ces livres, Martine.
Alors,
toute la lumière que nous ne pouvons voir.
Alors, faut dire que ces livres, on peut les lire sur, on les lit sur 5-6 mois. Donc, c'est pas non plus les gens ont le temps.
Ceux qui veulent participer aux discussions
et
à l'élection.
On a commencé
choisi.
Au mois de décembre et là, on vient de terminer là au mois de mai. Donc, ça laisse le temps un petit peu de
les gens
de
sont
les
contents
lire.
De participer à ça.
Oui, bah oui, parce que ça, bon, ça d'abord, ils aiment bien avoir des animations et les gens qui participent lisent. C'est des gens qui aiment lire, qui ont l'habitude de lire. Mais ça n'empêche que celui qui veut effectivement se lancer dans l'aventure pourront le faire l'année prochaine d'ailleurs, puisque chaque année...
Il y a un certain nombre de livres.
Il y a un certain nombre
et
de livres.
Les gens défendent leur choix.
Les gens défendent leur choix, voilà.
La lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr.
Premier livre que nous avons lu. Alors, ce livre raconte le destin croisé, en fait, de deux enfants, Marie-Laure, française qui est aveugle suite à une maladie. Elle est orpheline, donc son papa va la prendre en charge de façon à ce qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Ils sont à Paris et il lui apprend à circuler dans les rues. Alors elle se repère aux odeurs, aux plaques d'égout, enfin aux choses comme ça. Et tous les jours, il lui fait faire une promenade et changer les circuits de façon à ce qu'elle puisse se repérer dans la ville.
Être autonome et circuler dans la ville.
Et en plus, il fabrique des toutes petites maisons, des toutes petites choses qui va des maquettes en fait, hein, qui va faire et elle va au toucher. Donc, se repérer par rapport à la fois à l'extérieur et par rapport à cette maquette. Donc, elle connaît tout son quartier par cœur. Elle est capable toute seule de se déplacer. Donc, ça, c'est la première partie. Et en même temps...
En contrepoint, oui.
On a un orphelin allemand qui s'appelle Werner, qui, lui, donc, vit dans une maison... Je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est pas des orphelinats, mais c'est des maisons de l'enfance où il y a plusieurs enfants orphelins et il y a une dame qui dirige cet ensemble.
Il est pris en charge dans un établissement d'accueil, donc.
Voilà, et à 9 ans, il arrive, il est passionné de radio et il capte la radio française, notamment sur Saint-Malo, parce que bon, on va voir après dans le roman que Saint-Malo a une importance, et il écoute, il apprend le français en fait comme ça, et en écoutant... Cette personne qui raconte des choses pour lui extraordinaires, quoi, puisque. Et alors, malheureusement, bon, bah, la guerre arrive. Et le père de Marie-Laure travaille au musée à Paris, au musée de l'homme. Et donc, ils ont des pierres précieuses, des choses comme ça, qu'ils veulent mettre de côté pour que les Allemands ne prennent pas. Tous ces objets. Et alors, il y a une pierre notamment qui est copiée et répartie sur plusieurs personnes. Et personne ne sait dans le musée qui a la bonne pierre. Donc c'est passionnant.
Donc c'est
parce que d'un
temps,
autre côté, il y a un Allemand qui va chercher cette pierre. Donc c'est assez particulier, et il va justement aller dans tout... Il arrive à savoir qui a les pierres, et donc le père de Marie-Laure a caché la pierre. Lui, il ne sait pas si c'est une vraie ou la vraie ou la pas vraie, hein, mais la pierre est cachée dans un ces petits modèles réduits qu'il fait. Et il a donné à sa fille en disant, ça, tu le gardes précieusement, parce que dedans, il y a quelque chose de bien... Et donc, le père de Marie-Laure est originaire de Saint-Malo. Ce qui fait qu'à la guerre, il va partir à Saint-Malo avec sa fille chez un grand-oncle de la petite fille. Hein, le grand-oncle, bon, qui est un monsieur un peu particulier, mais finalement, avec Marie-Laure, ils vont avoir des affinités et ça va bien se passer et tout.
Et puis, la suite du roman,
parce que l'orphelin va venir sort Saint-Malo. Donc après, voilà.
Hein, après la suite
à découvrir.
En tout cas, il y a suffisamment de tension, d'intrigue pour que ce soit un livre tout à fait intéressant.
Oui, oui.
Second livre de cette sélection, Le violoniste.
Alors là, Le violoniste, on s'en va en Russie.
Donc on change d'espace.
Donc là, c'est Sacha qui est violoniste très connu. Donc en Russie. Et puis, de temps en temps, il joue à l'étranger.
C'est un contexte de guerre, un contexte de paix. Ça se situe quand ?
Non, c'est après 1948. Bah, si le violon a disparu, donc il est en 1948, donc ça veut dire que lui a été arrêté en 1948 lors d'un concert qu'il donne, parce que il avait acheté des billets pour faire plaisir à sa femme, mais sans lui dire. Il voulait, comme il allait jouer à l'étranger, il voulait emmener sa femme et ses enfants pendant son concert. Seulement, bon, on est quand même à la période un peu
stalinienne.
Donc, ça a été découvert et ils ont pensé qu'ils voulaient, en fait, se sauver, partir à l'étranger, émigrer. Emmener sa famille et rester là-bas à l'étranger, alors que ce n'était pas du tout le but. Mais bon, donc du coup, il se fait arrêter au dernier concert qu'il donne, là. Et alors, Sacha, c'est le petit-fils, en fait, d'Ilia. Donc, le petit-fils qui va chercher, mais c'est assez intéressant aussi, parce que le parcours du petit-fils, par rapport à...
Qui va rechercher
ce violon.
Qui va rechercher le violon.
Qui va rechercher le violon, parce que lui, il y a beaucoup de choses dans sa tête qui ne se rappellent plus, ou des choses comme ça qu'il a vécu enfant, qu'il n'avait pas compris. Et à la recherche de ce violon, justement, il va retourner sur les pas d'Ilia. Et donc là, il y a toute une partie du livre où on se retrouve donc au goulag avec Ilia. Et puis, sa femme aussi a été, du coup, puisque la famille... on éliminait la famille d'un seul coup, hein. Donc la mère et les enfants sont internés dans un autre camp.
Bon, c'est pas donc, particulièrement joyeux.
Pas très joyeux, parce que Lia s'en sortira pas. Par contre, sa femme, oui, donc après, elle saura que très tard, quand même, exactement
ce qui s'est passé,
ce qui s'est
du
passé
violon
et qui a manigancé tout ça. Donc voilà, ça
donc,
c'est,
là aussi, encore
c'est une autre
une
période... Bon, ça montre un peu le système politique soviétique et en même temps les nouvelles technologies de sécurité pour la protection des personnes. En fait, il y a deux périodes donc importantes qui se croisent.
Il y a
la période 48 et puis la période de maintenant où avec toutes les nouvelles technologies, on peut avoir accès à pas mal de choses finalement.
Eh bien, voilà, donc le deuxième livre proposé, c'est Le violoniste de Bormann.
Le troisième, Danser les ombres. Alors là, c'est un petit peu particulier. Donc c'est un roman qui se passe à Haïti au moment du tremblement de terre.
Donc là, on change complètement de lieu.
Donc on change de lieu, on change d'époque. On change aussi un peu de civilisation, si on peut dire, parce que les gens d'Haïti, c'est pas des Européens, donc ils ont leur manière de croire, leur manière de voir la mort différente de nous et tout ça.
Donc c'est un roman très dépaysant.
Donc là, c'est vraiment, oui, très...
Alors il s'agit donc
il s'agit donc
quelque chose de dramatique
oui, puisque tremblement de terre, la recherche des personnes qui sont
ensevelies. Personnages du roman.
Et donc là, il y a bien... Oui, il y a Lucine et Saul. En fait, Saul, c'est le fils de quelqu'un de très important, mais de la bonne, si vous... En fait. Donc, il vit dans la famille. Il vit avec ses demi-sœurs, sa demi-sœur, son demi-frère. Il a toujours gardé les contacts, mais il n'a jamais voulu... entrer un petit peu dans cette famille vraiment, il n'y a qu'après qu'il va réfléchir à tout ça. Et en fait, son père voulait lui payer des études de médecine et lui, il a pas. Donc, mais il était quand même infirmier, enfin il connaissait beaucoup de choses. Hein. Donc quand il est revenu sur l'île, on l'appelait l'ami docteur parce qu'il allait soigner dans les bidonvilles, dans les endroits pas possibles quoi. Et donc, mais il n'a jamais été.
Il
a jamais
été. Il y a la contradiction du personnage entre son origine.
Voilà, c'est ça.
Et puis son choix de servir les plus pauvres.
Et une bande de vieux copains avec le vieux TC qui, eux, vivent un peu la vie facile. Ils ont la chance de vivre la vie facile entre copains. Et donc tout ça s'arrête, en l'espace de quelques heures, parce que donc tous ces personnages vont être chamboulés.
Dispersés par le tremblement de terre.
Et alors, dans leur croyance, effectivement, pour eux, les âmes ils appellent ça les ombres.
Donc, à l'occasion pour vous d'aller lire Danser les ombres, le troisième livre proposé pour ce prix littéraire de Mitis. Alors, les autres, nous allons vous les proposer la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, au revoir.